franceinter.fr.
On n'arrête pas l'écho. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La réforme du marché du travail est sûrement la réforme clé.
Nous sommes dans un code du travail qui est incompréhensible, qui est anxiogène. Donc là, aujourd'hui, 21e siècle, août 2015, je pense qu'on a quelques mois. On a peut-être un consensus historique.
Ouh là là, historique. Et là, voilà la petite musique de la rentrée. Gattaz, Moscovici, mais aussi valse, à droite, à gauche. Il faut réformer la législation du travail. Vous allez voir. Deux rapports en étude ces prochains jours, le sujet va monter. C'est une question de curseur, la liberté des chefs d'entreprise dans leur boîte et les limites nécessaires. Vous allez me dire, et les 35 heures ? Ah non, pas les vieilles polémiques, répond le gouvernement. Enfin, pas tout le gouvernement, il y a Emmanuel Macron.
Vous avez l'amour, mais vous avez l'épreuve d'amour.
Et il y a ceux qui aiment être la note discordante. Voilà, c'est la petite musique de la rentrée, les réglages du code du travail. Un sujet important, très important, bien sûr. Mais le vrai défi du 21e siècle au chapitre travail, la vraie question, c'est l'économiste Daniel Cohen qui la pose.
Est-ce que demain matin, quand je viendrai à mon travail, un logiciel ne fera pas à ma place le job que j'ai fait jusqu'à présent ?
Ah oui, est-ce que c'est ça la vraie question ? C'était hier dans la matinale de France Inter. La grande angoisse, la numérisation du monde, les jobs qui disparaissent, ceux qui se créent en dehors du salariat, les Uber, les Airbnb, les chômeurs et les travailleurs hors système. Ça, c'est la grosse caisse qui joue en sourdine, juste derrière la petite musique de la rentrée.
Vous avez l'amour et vous avez l'épreuve d'amour.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Bienvenue dans votre magazine d'économie. On n'arrête pas l'écho, saison 6 et cette saison, amis auditeurs. Nous poursuivons, non pas un Graal, mais deux Graals, décrypter et surprendre. Au sommaire, ce samedi, comment Pôle emploi part à la conquête des entreprises ? Eh bien, vous entendrez le reportage de Bénédicte Robin. L'homme qui dirige HEC depuis 20 ans et pour 3 jours encore, il sera en studio avec nous, Bernard Ramanansou. Elle est déjà là pour Ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Cette saison, Sandrine, vous enfilez votre costume de coach, vous répondez aux questions des auditeurs et ce samedi, on nous écrit de Strasbourg, c'est Eric. Que veut-il savoir, Eric ?
Eh bien, Eric n'a pas réussi à prendre tous ses jours de congé. Il se demande s'il ne va pas les perdre.
Une question essentielle, en effet. Au retour des vacances, vous nous expliquez tout à l'heure. À la table ronde, je salue nos éditorialistes, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous aussi.
Décrypter l'actualité économique et surprendre, ça vous va comme cahier des charges ?
C'est parfait.
C'est dit d'une seule voix. Pour mettre en onde tout ça, une équipe, l'attachée de production Céline Vilgas, la réalisatrice Catherine Rosier, et à la technique ce matin, Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet. C'est parti.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc,
On n'arrête pas l'écho, le débat.
L'actualité de la semaine débattue donc par Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, c'est le krach en Chine, la surréaction des marchés, cette grande question, que risquons-nous exactement ?
Faut-il craindre une nouvelle crise financière à l'échelle de la planète ? La question est posée après la dégringolade de la bourse de Shanghai ce matin, une baisse de 8,5%.
You feel the tension here on Wall Street. You heard Serge say earlier, wasn't panic, but boy, 1089 was our lowest point.
C'est très dur d'arriver à lire l'économie chinoise. Nous ne connaissons pas son taux de croissance exact. Nous sommes dans l'incertitude et ça, c'est ce que les places boursières détestent le plus.
C'est surtout l'exportation qui ne marche pas. Des usines qui fabriquent des vêtements, des électroniques, 50-60% sont fermées, ils sont délocalisés dans le sud-est de l'Asie, quoi. C'est comme le casino, quoi. Tout le monde perd, mais tout le monde y va.
Mais pour combien de temps? La Chine, c'est-à-dire 13% de la production de richesse sur la planète, émet des craquements. Les marchés vacillent, des craquements pas depuis lundi. Hein. Les bourses chinoises ont gagné plus de 150% en un an. Elles ont perdu 40% depuis mi-juin. Et donc, cette semaine, on a vu les investisseurs paniquer. Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. On le savait depuis, et nous on le dit, hein, il faut le dire, depuis un petit moment que la Chine ralentissait. Pourquoi est-ce que cette semaine on a un crack? Pourquoi maintenant?
Bon, il y a deux choses à comprendre. Hein. Comme vous venez de le rappeler, l'économie chinoise, elle ralentit, mais de manière structurelle. Pourquoi? Parce que comment on fait de la croissance? Avec du travail, avec des machines, et puis quand on mélange les deux de manière de plus en plus efficace. Le travail, il y en a de moins en moins en Chine. La démographie, elle est en train de commencer à reculer. L'investissement, ils sont en surcapacité, ils ont surinvesti. Et puis ce que les économistes appellent la productivité, produire de manière encore plus efficace, c'est en baisse. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est plus un pays pauvre en train de se développer à 10% de croissance par an. C'est un pays qui devient un pays de croissance moyenne. Donc ça ralentit de manière structurelle. Ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième, c'est que les bourses chinoises, vous venez de le rappeler, mais aussi mondiales, ont explosé et ont été bien plus haut que ce que permettrait d'anticiper la croissance mondiale. Donc, il y avait besoin d'une correction boursière d'un côté et il y a une Chine qui ralentit de l'autre. La correction boursière, ça démarre quand? Bah, c'est le gouvernement chinois qui a donné le top départ en disant « Oh bah tiens, on va changer la façon dont on calcule notre taux de change pour donner plus de place au marché. » En fait, concrètement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les Chinois? Déprécier la valeur de la monnaie. Pourquoi? Pour regagner de la compétitivité et soutenir les exportations. Les gens de marché ont dit « Oulala, si les Chinois font ça, c'est-à-dire que la croissance est vraiment pourrie, si le gouvernement a besoin d'aller chercher par une dépréciation un soutien aux exports, c'est que la croissance est vraiment pourrie, on va se mettre à vendre les actions chinoises. » Les marchés émergents boursiers étaient déjà en train de plonger, ils ont dit « Oulala, si la Chine ralentit vraiment, elle ne va plus nous acheter de matières premières, elle ne va plus nous acheter de produits en général, la croissance va s'effondrer. » Et si la croissance s'effondre en Chine et c'est les émergents, les marchés boursiers du Nord, bah, les économies du Nord vont moins bien, les marchés boursiers du Nord explosent. Ça, c'est ce qui explique le déclenchement. Et pourquoi ça yoyote pendant 3-4 jours? Là, vous regardez la façon dont les marchés boursiers évoluent dans les 20 dernières minutes. Aux États-Unis, en Europe, vous apercevez que le mouvement, il est incertain et dans les 20 dernières minutes, ça plonge. Ça, c'est le signe typique que les spéculateurs sont là et qui vendent massivement dans les 20 dernières minutes pour gagner de l'argent sur la vente. C'est la spéculation à la baisse. Ajouté à deux éléments structurels, le ralentissement en Chine et le fait que les bourses étaient montées trop haut, qui explique tout ça.
Emmanuel Le Chip, donc la Chine ralentit, les marchés surréagissent, ils yoyotent, les spéculateurs jouent. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Emmanuel Le Chip?
Bah, en fait, il y a deux aspects que Christian a évoqués. Est-ce que cet accident, cette capitulation, comme on dit sur les marchés, c'est-à-dire le jour où tout le monde renonce finalement à acheter, où tout le monde vend, est-ce que c'est vraiment dû seulement aux inquiétudes chinoises? Et là, si on pense que c'est ça, bon, il faut relativiser hein, les risques. C'est vrai, Christian l'a dit, il y a une mutation en Chine qui est en train de s'opérer vers une économie qui était basée sur la surcompétitivité à l'export. Mais comme les salaires chinois ont quand même augmenté de 15 à 20% ces dernières années, c'est un pays qui aujourd'hui se retrouve confronté à un problème de compétitivité et qui va devoir donc effectivement, pendant plusieurs années, avoir une croissance plus faible. Ce qui a fait peur, c'est que pendant des années, on a eu le sentiment que les dirigeants chinois étaient absolument formidables, qu'ils comprenaient tout, qu'ils avaient un pilotage de la politique économique intelligent. Et là, la décision justement de dévaluer le yuan, ça a été interprété comme étant « Ouh là là, mais est-ce que finalement ils sont pas en train de perdre le contrôle ?» Et là, quand vous dites que dans le plus gros avion quasiment de l'économie mondiale, bah, le pilote il est peut-être pas aussi bon que ce que vous pensiez, ça inquiète. Mais en même temps, derrière, il y a quand même un sacré réservoir de croissance. C'est un pays qui a encore les moyens budgétaires de relancer l'activité, qui a des réserves de change absolument considérables, 4000 milliards de dollars. Donc on peut éviter l'accident. Et n'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, le ralentissement de l'économie chinoise, il nous profite. Parce que l'effet négatif sur nos exportations est plus que compensé par l'effet très positif sur notamment les matières premières, puisque moins de consommation de matières premières en Chine, ça fait baisser les prix. Donc pour le moment, ça nous profite. Ça, c'est le scénario à la limite qui est le moins inquiétant. Mais le deuxième qu'a esquissé aussi Christian, c'est de se dire, mais après tout, finalement, est-ce que cet accident chinois, ça n'est pas le prétexte à une correction beaucoup plus générale sur des marchés financiers? Rappelons quand même juste quelques chiffres. 10 000 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale depuis la crise de 2008 par les banques centrales. Le résultat, c'est 300% de hausse des bourses, notamment aux États-Unis.
Hein. On a des masses d'argent qui ne savent pas où aller.
L'argent. Le CAC 40, par exemple, a pris 50% depuis 2012. Les taux d'intérêt à long terme ont été divisés par 4 en France, par 2 aux États-Unis. Donc, on a quelque part quand même des marchés en lévitation. Et là, c'est qu'on peut se dire aussi, mais est-ce que finalement la Chine, ça n'est pas un prétexte parmi d'autres qui pourra venir déstabiliser des marchés? Et là, on se dit, aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ce sera peut-être autre chose. Peut-être que nous rentrons dans une période de turbulence financière très importante.
Si jamais nous en étions un jour sortis. Ça m'a intéressé ce que vous dites, Emmanuel Le Chiffre.
J'en suis ravi, Alexandra.
C'était pas intéressant. D'accord, merci.
Sur la direction de la politique économique chinoise, est-ce que Pékin perd la main? On a au téléphone avec nous François Godemant. Bonjour François Godemant.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du programme Asie au Conseil européen des relations internationales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Pékin perd la main dans la direction de son économie?
Disons que le changement de politique économique dont parlaient vos deux intervenants, il est très difficile à piloter parce que on voit les pertes, elles sont immédiates. Les gens qui avaient beaucoup spéculé dans l'immobilier, les gens qui se sont très endettés, y compris les collectivités locales, les entreprises d'État qui ont trop construit, etc. Tout cela, ils sont affectés par l'évolution vers une économie de consommation. Mais les gains, eux, ils mettent du temps à arriver. Il y a des évolutions silencieuses. Par exemple, dans ce qui se passe cette année, vous avez plus de 10% de croissance de la consommation individuelle. C'est pas si mal. Avec moins de produits importés, d'ailleurs, un peu plus de produits chinois. Il y a 20% de plus de touristes chinois dans le monde aujourd'hui. Plus de 100 millions, 107 millions exactement. Près de 50% en plus en France. C'est pas une économie qui est en train de s'effondrer. Mais le gouvernement hésite parce qu'il a un peu peur des perdants qui sont très souvent très proches du pouvoir. Et ce qui s'est passé depuis un mois, lâcher la bourse, puis ensuite se mettre à la soutenir, libéraliser la monnaie, puis ensuite réintervenir, ça a créé une impression clé qu'un de vos intervenants a cité, l'incertitude. Et jusqu'ici, les dirigeants chinois avaient persuadé leur population, leurs investisseurs, et dans une certaine mesure les investisseurs étrangers, qui savaient exactement où ils allaient, qu'on pouvait compter sur la poursuite de leur politique. Et bien là, c'est fini. Entre le marché et le contrôle de l'État, visiblement, ils oscillent.
Et est-ce qu'il y a un débat, justement, en Chine, là-dessus, sur le cap économique? Est-ce que c'est débattu?
Il y a eu un énorme débat jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Xi Jinping étouffe plutôt tous les débats. On le retrouve aujourd'hui, très vivement, entre les accusations qui sont portées d'ailleurs par le pouvoir sur la spéculation qui lance les spéculateurs comme la cause de ce qui s'est passé, et les analyses économiques qui disent il faut aller plus loin, il faut aller vers l'économie de marché, il faut laisser d'ailleurs la purge s'accomplir, notamment à la bourse, comme l'ont souligné les intervenants, moins 40% après 150% de hausse, c'est pas un effondrement, c'est presque un retour à la normale, si vous voulez. Mais il fait des pertes. C'est là que se situe le débat.
Qui dirige la Chine, François Godemant? Je crois que vous dites que c'est une élite, 25 personnes?
Alors, ce que je le disais naguère, aujourd'hui, c'est une personne. Xi Jinping a capté plus de pouvoir personnel que n'importe lequel de ses prédécesseurs depuis Mao. Et c'est un problème parce que il peut pas non plus tout contrôler, tout diriger. Il étouffe un peu les initiatives des autres, si vous voulez. Il y a une certaine paralysie qu'on perçoit. Ça fait partie de la crise politique.
François Godemant, je vous remercie. Vous restez avec nous en ligne. On continue le débat sur la Chine. Christian Chavagneux. Donc ça n'est pas une économie qui s'effondre, c'est une économie en mutation. Mais moi, on s'interroge quand même sur que risquons-nous, sur les conséquences.
Alors déjà sur les conséquences économiques chinoises. Les statistiques sont quand même assez flageolantes. Hein, donc ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Mais a priori, il y a 10% des ménages chinois qui ont investi en bourse et ça représente 6% de leur épargne financière. Donc c'est quand même pas grand chose, ce sont quand même plutôt les plus riches et il n'y a pas d'effet de richesse important. L'effet de richesse, c'est quand la valeur de votre maison, de vos actions s'effondre, vous vous sentez plus pauvre, vous arrêtez de consommer. Il n'y a pas d'effet de richesse important en Chine, donc au moins du côté chinois, ça ne devrait pas jouer sur la consommation, ça ne devrait pas trop jouer sur la consommation. Et il faut souligner bien sûr ce qu'a dit François Godemant, c'est pas une économie qui est en train de s'effondrer, c'est une économie qui croissait, si on en croit les statistiques officielles, de l'ordre de 10% par an.
Alors apparemment tout le monde est d'accord. d'accord pour dire que, bien sûr, personne ne croyait.
C'était donc les Chinois disent 7%, certains experts disent 5-6, Patrick Artus en France dit plutôt 2-3, mais d'autres experts disent oui, mais quand on dit 2-3, c'est parce qu'on se focalise trop sur l'industrie et les produits manufacturiers. On sous-estime la croissance du secteur des services qui justifierait le 4-5 ou le 5-6. En tout cas, c'est une économie dont la croissance ralentit, mais qui n'est pas en effondrement.
Donc Emmanuel Lechypre, on avait un tableau quand même avec, là on se reconcentre plus sur l'Europe, on avait l'euro qui s'est affaibli, le pétrole qui est sous les $40 le baril, les taux d'intérêt au plus bas. Michel Sapin qui nous dit même, oulala, on sent que la reprise se diffuse, là en France plus particulièrement. Et puis on a la Chine, ça nous donne quoi au final ça?
Alors au final, c'est vrai que le paysage mondial, c'est un paysage dans lequel on se dit finalement, il n'y a plus de cycle mondial et il n'y a pas vraiment de très forte, de très puissante locomotive. Parce que cette problématique chinoise, elle intervient dans un contexte plus général où la quasi-totalité des grands pays émergents sont eux aussi dans des difficultés très importantes. Hein, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie. Donc ça, c'est un contexte général avec une Europe qui va sur un rythme modéré, des États-Unis qui sont sur une espèce de croissance diesel, c'est-à-dire solide mais pas extrêmement vigoureuse, un Royaume-Uni qui prospère uniquement sur sa bulle immobilière et un Japon dont l'électrocardiogramme reste désespérément plat. Donc c'est très difficile. Et derrière l'inquiétude des marchés, il y a cette idée que il n'y a pas de croissance mondiale très forte et que le problème, c'est que pour la relancer, on a de moins en moins d'outils. Après, en France, la réalité, c'est que quand vous regardez ce que injecte dans la mécanique cette incroyable baisse du pétrole, la baisse de l'euro, la baisse des taux, il y a mécaniquement la place pour avoir 2% de croissance en 2016.
Ah, ça c'est votre grand pari.
Non, mais si vous regardez dans la France, dans des cas de figure identiques à la fin des années 80, à la fin des années 90, on a eu 4% de croissance avec des baisses de la même ampleur. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on peut avoir 4% de croissance, mais mécaniquement, il y a de la place pour 2%. On voit que dans les statistiques récentes, regardez le fameux pari du gouvernement sur la situation financière des entreprises, elle s'améliore. Au MEDEF, toutes les entreprises vous disent ça va mieux, on a même du cash, mais on attend pour investir. Regardez les chiffres sur les ventes de logements résidentiels, regardez le moral des industriels au plus haut depuis 4 ans. On est sur un rythme aujourd'hui, en instantané, qui est de 1,5% à peu près par an. On a fait 0,7 au premier semestre, et c'est comme par hasard comme ça que le chômage se stabilise.
Et donc
c'est
les hockey chinois absurde. Ne vont pas, les hockey chinois n'empêchent pas tout
ça. Ils auront de l'importance, à mon avis, plus si on est dans le cas de figure où il faut se préparer à des turbulences majeures sur les marchés financiers, plutôt que dans le simple cas mécanique du ralentissement chinois. Le problème des exportations, il est limité. Je vous prends juste l'exemple de nos constructeurs automobiles. Il faut savoir que 80% des automobiles qui sont vendus en Chine par des constructeurs français sont fabriqués en Chine. Donc vous n'avez pas l'effet taux de change, etc. Mmh. Donc l'effet mécanique sur la croissance française du ralentissement chinois, hein, on nous dit que 3% de croissance en moins en Chine, c'est 0,1 point sur le PIB français. Moi, c'est plutôt les turbulences financières et le climat que ça crée dans la paralysie, dans les décisions d'investissement qui me préoccupent.
Christian, sur la croissance possible en France, 2% en 2016. Oui, Emmanuel, vous êtes d'accord?
Moi, je partage l'optimisme d'Emmanuel parce que la baisse des taux d'intérêt, la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, c'est le choc de demande qu'attendaient les entreprises. C'est pour ça que les entrepreneurs sont contents aujourd'hui. C'est pas la baisse des charges du gouvernement. C'est parce que enfin, il y a de la demande et donc elles vont pouvoir investir et embaucher. Et c'est ça qui va tirer la croissance. Pour aller encore une fois dans le sens d'Emmanuel, on nous dit que la part de la richesse allemande qui dépend des exportations chinois, c'est 11%, chez nous c'est 6,5%. Donc les hockey chinois, moi je suis pas très inquiet, les hockey financiers, je suis très inquiet, et par contre, grâce au choc de demande qu'on a, là voilà, l'économie française pouvoir repartir en 2016.
Un tout petit mot, Emmanuel.
Et ben moi aussi je vais aller dans le sens de Christian aujourd'hui.
Bah, bravo.
Oui, pour lui dire que là il y a
ça va pas durer.
Oui, pour dire qu'il y a un point qui me préoccupe, c'est la baisse de la dépense publique et de l'investissement public, parce que on voit bien que la maîtrise, si vous voulez, des dépenses est faite sur le dos non pas des dépenses de fonctionnement, mais des dépenses d'investissement, notamment des collectivités locales. Et c'est ça dont on aurait besoin aujourd'hui pour être peut-être la dernière étincelle avant d'inciter les chefs d'entreprise à investir.
Alors, c'était pas Christian Chavagneux, c'était Emmanuel Lechypre.
C'était bien moi.
Mais où est la locomotive du monde avec tout ça? On va faire un tour aux États-Unis.
This is CNN Breaking News.
The U.S. economy grew at a much stronger than expected 3.7% annual rate in the second quarter.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Bensaïd.
Pierre-Yves, vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis, et c'est vrai ce qu'elle nous dit, cette consoeur de CNN, une croissance plus forte que prévue aux US. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le seul moteur économique de la planète solide, ce sont les États-Unis.
Alexandra, la locomotive américaine avance. Alors, elle a connu un passage difficile cet hiver. Elle avance moins vite que beaucoup l'avaient anticipé, mais elle accélère à nouveau. Le secteur immobilier poursuit son redressement, ce qui dope le patrimoine des Américains et du coup les incite à consommer. La consommation croît, on vient de le voir, à plus de 3% en rythme annuel. Et comme la consommation, c'est 70% de l'économie américaine, évidemment, ça commence à se voir. Et le secteur automobile est toujours en plein boom, dopé bien sûr par la baisse des prix de l'essence et par la chute du chômage. On peut rappeler quand même qu'en 2 ans, l'économie américaine a créé 5,5 millions d'emplois. Alors c'est vrai, souvent ces postes sont moins bien rémunérés qu'avant la crise. Beaucoup d'Américains sont sortis de la population active, mais enfin le chômage est tombé à 5,3%. On est très près du plein emploi et cela entretient l'optimisme, évidemment.
Et donc Pierre-Yves, est-ce que tout ça, ça fait un moteur solide ou est-ce que, par exemple, le ralentissement chinois est quelque chose qui inquiète les États-Unis ?
Alors, les traders à Wall Street s'inquiètent beaucoup de la Chine, probablement un peu trop d'ailleurs. Les responsables du secteur manufacturier américain s'inquiètent bien sûr de ce qui se passe en Chine. Les autorités politiques, je dirais, sont surtout inquiètes de l'incapacité des autorités chinoises à empêcher ce ralentissement de dégénérer en récession. Mais pour l'instant, l'élan de l'économie américaine est assez fort pour ne pas être coupé net par un simple ralentissement en Chine. C'est probablement d'ailleurs ce qui va pousser la Fed à abandonner son taux directeur nul, qui est en place depuis la fin 2008 tout de même, et ce grand virage de la politique monétaire américaine est envisagé d'ici Noël et peut-être même avant si la tempête boursière se calme.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. François Godemont, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob, Que veut la Chine ? Et Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chypre, avant de refermer ce débat, c'est le moment de nous surprendre. Un coup de cœur, un coup de gueule, votre info de la semaine, Christian.
Et écoutez-moi, le Premier ministre a publié mardi dernier dans les Échos un programme général, un article de rentrée, et dedans, il nous dit il faut réduire la dépense publique. Ça fait suite à ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Absolument. Pourquoi est-ce qu'il faut réduire la dépense publique ? Eh bien, le Premier ministre nous dit c'est un gage de sérieux, mais aussi de patriotisme. Et oui, réduire la dépense publique, c'est patriotique. On pensait qu'être patriotique, c'est pas moi. C'était attendre des médailles de l'équipe de France au championnat du monde d'athlétisme. Ou alors, c'était pas prendre l'avion du gouvernement pour aller avec son fils et ses enfants regarder un match d'une équipe espagnole. Mais non, non. Ce qui est très patriotique, c'est réduire la dépense publique. Alors, on voit bien qu'il y a un possible raisonnement économique derrière. Parce qu'au moment où le gouvernement annonce des baisses d'impôts pour tout le monde, si vous réduisez pas les dépenses, vous augmentez le déficit, vous augmentez la dette. Et donc, vous augmentez la nécessité de faire financer la dette. Alors, on dit qu'un tiers de la dette est financée par des Français, un tiers par des Européens non Français et un tiers par le reste du monde. En pleine panique boursière mondiale, le Premier ministre nous dit quand même « Eh, vous, les Chinois, les Américains, les exportateurs de pétrole, c'est vraiment, vous nous bouffez notre souveraineté nationale, on veut plus de vous hein. !» C'est quand même super risqué, monsieur le Premier ministre.
Emmanuel, de la semaine.
Moi, mon coup de gueule, c'est qu'on n'en finit pas de découvrir les formidables effets pervers de la loi Allure. Vous savez, cette loi sur le logement portée par Cécile Duflot. Alors, vous allez me dire, heureusement, on la détricote jour après jour. On a vu la loi Pinel, fin 2014. Ah là, comme par hasard, boum, dans les ventes de logements neufs, plus 23% au deuxième trimestre. Bah oui, parce qu'on a un petit peu déverrouillé le dispositif Duflot. Et puis, cette semaine, on a une ordonnance présentée en Conseil des ministres qui vise à simplifier, vous savez, ces horribles procédures qui avaient été mises en place quand vous êtes dans un immeuble, que vous voulez vendre un appartement, eh bien, il fallait accumuler une documentation incroyable qui rallongeait le délai de transaction de plusieurs semaines. Tout ça va être simplifié. Et alors, dernier événement en date, eh bien, c'est que, figurez-vous que cette loi Allure, elle était censée protéger les locataires de plus de 65 ans. En gros, quand vous aviez un locataire de plus de 65 ans, si vous vouliez le virer pour vendre ou pour mettre vos enfants, il fallait lui trouver un logement de substitution. Résultat, plus personne ne veut louer à des locataires de plus de 65 ans. Il y a même des propriétaires qui les virent avant les 65 ans pour être sûr de pouvoir rétablir leur lien. Donc, encore bravo, la loi Allure.
Emmanuel Le Chypre, Christian Chavagneux, merci. C'est la fin du débat. Personne n'a le nom du futur ministre du Travail ?
Moi, j'ai un candidat, mais...
Votre candidat, non. Il nous faut un vrai nom. On n'arrête pas l'écho, continue avec le patron d'HEC dans 10 minutes, Bernard Amanansou, avec Sandrine Foulon, désormais coach dans Ma vie au boulot. Elle répond à vos questions, c'est à la fin de l'émission. Et puis, là, tout de suite, un petit tour à Pôle emploi.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Alexandra Ben Saïd.
Effectivement, en fait, vous avez les candidatures et les profils que nous, on vous suggère.
9h37 sur France Inter. L'économie frémit, peut-être. En attendant, dans les agences Pôle emploi, chaque mois, on doit toujours accompagner plus de 5,5 millions de chômeurs. Est-ce que le service est efficace pour retrouver un boulot? Là, je vous renvoie au dernier rapport de la Cour des comptes. Pôle emploi serait à l'origine directe du retour à l'emploi dans moins de 13% des cas. Alors, pour devenir un meilleur intermédiaire, l'agence part ou repart à la conquête des entreprises. 4000 agents déployés pour n'écouter que les besoins des recruteurs, des employeurs. En cette fin d'été, le service personnalisé au patron est censé être opérationnel. Bénédicte Robin est allé voir sur le terrain en Picardie.
La CGT,
tout au compte, dernier bureau sur votre gauche.
Très bien, merci monsieur.
Sébastien Romance, président de la CGPME Picardie. Écoutez, je pense que ça va dans le bon sens. Plus les relations entre les PME et Pôle emploi seront étroites, plus nous espérons que ces relations seront efficaces. Aujourd'hui, si vous interrogez les PME, la plupart d'entre elles considèrent que Pôle emploi n'est pas la meilleure voie de recrutement qui existe.
Ils s'orientent vers quoi alors ?
Alors, vers le réseau de relations, vers la famille, les amis, vers éventuellement des cabinets de recrutement spécialisés pour avoir plus d'efficacité. Moi, j'utilise régulièrement, alors ça va peut-être vous choquer, mais Facebook pour recruter, ça fonctionne très très bien, j'ai beaucoup de contacts.
Dans le rapport de la Cour des comptes qui a été publié au début juillet, il y a des sondages d'enquête de satisfaction auprès des salariés et des entreprises. C'est pas si terrible finalement, 67% des entreprises qui seraient satisfaites.
La question que je me pose, c'est quelles sont les entreprises qui ont été interrogées. Voilà. Alors, je pense que si on est une grande entreprise du CAC 40, on doit être satisfait probablement de Pôle emploi, puisqu'on a des relations forcément privilégiées. Quand on est une TPE-PME, je rappelle qu'elle représente 96,4% des entreprises françaises pour les moins de 20 et 99% pour les moins de 200, la relation n'est pas du même niveau. Donc, je serais curieux de savoir si effectivement quelle est la nature des entreprises qui ont été interrogées. Les entreprises ont parfois des soucis de compréhension avec Pôle emploi, des soucis de disponibilité. Il est très compliqué parfois de joindre Pôle emploi, il n'y a pas d'interlocuteur dédié forcément. Pour un chef d'entreprise qui a très très peu de temps devant lui, ça devient vite complexe. Je ne crois pas que la problématique soit vraiment dans le nombre de collaborateurs de Pôle emploi, mais plus dans leur capacité à faire le lien entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.
Direction donc une agence de Pôle emploi, celle de la rue Millevoye à Amiens, dans la Somme.
Juliette Gosselin, conseillère à l'emploi au service dédié entreprise sur Pôle emploi. C'est un service qui a été créé, en tout cas sur l'agglomération d'Amiens-Doulan, au 18 mai. Donc on est 21 conseillers réunis sur cette équipe qui est complètement dédiée à l'entreprise.
Mais alors comment ça marchait avant ? On ne s'occupait pas des entreprises ?
Alors si, on s'occupait des entreprises, bien sûr.
Qu'est-ce que ça change maintenant que vous êtes dédié aux entreprises ?
Il y a une personnalisation au niveau des entreprises. Il y a un conseiller qui va gérer une entreprise vraiment de A à Z. Alors on a un portefeuille d'entreprises qui tourne un petit peu, je dirais, entre 100 et 200 entreprises par conseiller. On travaille par mail, par téléphone, on se déplace. Il faut avoir un petit côté commercial, je dirais, quand même, pour savoir discuter, pour être à l'aise aussi avec les entreprises et leur proposer des choses. Et après, on a des formations au sein de Pôle emploi qui peuvent nous permettre de faire des études de poste, par exemple.
Vous vous occupez des entreprises, il y a ceux qui s'occupent des demandeurs d'emploi, mais bon, il faut réunir les deux.
Alors nous, on est 80% sur l'entreprise à peu près de notre temps et 20%. Alors c'est quelque chose d'annualisé, ça va pas être ça très régulièrement. On a toujours un lien, nous, avec les demandeurs d'emploi. Il y a tout un travail avec l'entreprise. Le profil qu'elle va vouloir ne va pas forcément correspondre au portefeuille de demandeurs d'emploi qu'on va avoir. Donc on va pouvoir négocier avec l'entreprise. On a des actions de formation avant embauche qui peuvent être mises en place. Derrière, il va atteindre des compétences, un niveau requis qui correspondra au poste.
Juliette Gosselin me propose donc de rencontrer une des entreprises avec qui elle travaille dans un secteur bien particulier et qui recrute, celui de l'hôtellerie-restauration. Nous nous mettons donc en route vers le centre-ville d'Amiens. Rendez-vous à l'hôtel Mercure.
Anne Déhu, je suis la directrice de l'hôtel Mercure d'Amiens. C'est un secteur où c'est pas facile de recruter.
Quand vous cherchez des personnes à embaucher, vous vous tournez naturellement vers Pôle emploi ?
Oui, naturellement, c'est déjà Pôle emploi et on fait partie d'un groupe hôtelier important et on a un site effectivement qui s'appelle Accord Job où on a aussi beaucoup d'annonces on a beaucoup de difficultés à recruter. En cuisine, c'est très difficile. En réception, c'est difficile. Femme de chambre, enfin, je sais que ça surprend malgré le nombre de chômeurs, mais c'est très difficile de recruter. Ceux qui postulent souvent n'ont pas les qualifications requises. Alors, je sais qu'il y a un tri qui peut être fait avec Pôle emploi. Alors, souvent, on met déjà ce qu'on désire sur l'annonce. On essaye de pas trop filtrer. J'ai toujours un peu peur, si je demande à la NPE, au Pôle emploi, pardon, de filtrer, que du coup, on perde éventuellement des CV qui pourraient être intéressants. Donc, du coup, il y a énormément, je dirais, les trois quarts des CV qu'on reçoit qui correspondent pas du tout. Donc, effectivement, ça, c'est un problème. Et c'est vrai que c'est des choses où je réinsiste toujours sur les critères, parce que c'est pas des... Enfin, chaque secteur a ses particularités et qu'il faut effectivement bien les connaître, de savoir le rythme de travail, les horaires, éventuellement le travail de nuit. Si je demande l'anglais, c'est pas une option, c'est nécessaire. Et d'avoir vraiment une équipe dédiée aux entreprises, voilà, ça y fait, effectivement. Ce qu'on recherche, nous, quand on a des CV, on peut se référer à des collègues qui ont employé, mais donc si c'est quelqu'un de Pôle emploi qui connaît la personne, qui pense que par rapport à notre entreprise, ça peut fonctionner, c'est important parce que c'est du conseil et de la personnalisation, effectivement.
Jérôme Fossati, je suis délégué syndical cadre force ouvrière majoritaire de Pôle emploi Picardie. Il y a eu des expériences tout à fait similaires il y a une quinzaine d'années. On appelait ça des pôles de développement entreprise. Bon, c'est les noms qui changent. Hein. Puis on a dit, on arrête, ça prend trop de temps. Quand on dit comme ça, Pôle emploi, c'est 54 000 salariés. Bon, ça paraît quelque chose d'énorme. Hein. Mais quand on sait qu'en face, il y a à peu près 5 à 6 millions de personnes qui ont besoin de Pôle emploi d'une façon ou d'une autre à certains moments de leur vie quotidienne, c'est pas beaucoup. Alors 4000 salariés, c'est très bien. Ça en fait pour une ville moyenne de Picardie, ça en fait 6. Finalement, ça fait pas grand-chose, quoi. C'est bien, mais ça fait pas grand-chose. Les employeurs, il faut aller les voir, il faut aller les voir sur le lieu de travail, il faut voir les métiers pour lesquels ils recrutent, se rendre compte de visu qu'il y a des métiers qui sont peut-être plus compliqués que d'autres, plus délicats en termes de sécurité, faut être plus costaud physiquement, voilà. Faut connaître le terrain. Et moi, la crainte que j'ai, c'est que dans des équipes dédiées, les gens s'enferment dans un mode de fonctionnement encadré avec des processus et tout ce qu'on veut, qui fait qu'il faut appeler tant d'employeurs par jour, recueillir X offres, trois contacts pour le lendemain. Enfin, voilà, c'est le risque. En fait. On est une affaire de spécialistes encadrés de procédures. Et si notre cible, je crois avoir compris que c'est celle-là, ce sont les petites et moyennes entreprises, elles ne seront pas intéressées par ça.
Selon le rapport de la Cour des comptes publié début juillet, la part des offres non pourvues a paradoxalement augmenté depuis plusieurs années, alors que le chômage a lui aussi continué à croître. Des chefs d'entreprise qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas, ça existe. La preuve avec Jean-Claude Parrain, il a fondé sa société de bâtiments située quartier Saint-Pierre au bord de la Somme, à Amiens.
On commence par un petit café ?
Oh,
bon, si vous avez pas le temps.
Jean-Claude Parrain, entrepreneur d'une entreprise de 85 personnes à Amiens, dans le bâtiment et génie climatique, plomberie, couverture. Aujourd'hui, en 2015, on est plutôt en phase de recrutement, essentiellement des salariés qualifiés, des couvreurs, chauffagistes, plombiers, ce que l'on a du mal un petit peu à trouver.
Est-ce que vous sauriez la proportion de personnes que vous avez recrutées grâce à Pôle emploi par rapport à d'autres intermédiaires ?
Ouais, je dirais 1 sur 10. 1 sur 10. Il n'y a pas de personnel qualifié dans nos métiers disponible chez Pôle emploi. Problème de lien, problème d'estimer la qualification, la polyvalence et la technicité des salariés. Il y a peut-être des soucis, d'où la présence de ces 4000 salariés de chez Pôle emploi qui vont assurer la liaison avec les entreprises. Ça, c'est très, très positif.
Cette année, vous savez combien de personnes vous avez besoin de recruter dans votre entreprise ?
On sent un frémissement. Pour l'année prochaine, si l'activité continue un peu plus que frémir, c'est 5-6 salariés que je vais recruter.
Et vous allez tester le nouveau Pôle emploi avec ses agents dédiés ?
Bien évidemment, il faut faire confiance.
On n'arrête pas l'écho tous les samedis. À partir de 9h, Alexandra Ben Saïd.
Pôle emploi veut se rapprocher des entreprises et il y a des attentes. C'était le reportage de Bénédicte Robin. Son job à lui, il s'arrête lundi. Il a occupé son poste 20 ans. Bonjour Bernard Amanansou.
Bonjour.
Bernard Amanansou, vous êtes le directeur général de HEC. On peut dire qu'en 95, quand vous avez pris votre poste, c'était cette école de commerce, était une
PME franco-française et que 20 ans plus tard, vous en avez fait une multinationale avec des programmes de formation, des programmes d'échange au Qatar, en Chine, aux États-Unis évidemment, un peu partout sur la planète. En quoi, Bernard Ramanantsoa, c'est important d'internationaliser une école pour les élèves, voire pour le pays ?
Alors merci de cette présentation. Je suis d'accord avec la présentation que vous en avez faite, mais elle me plaît. Et alors, pour aller directement sur votre question, c'est pas important, c'est essentiel. C'est un problème de compétitivité pour un pays comme la France. Et la situation est grave, si je puis dire aujourd'hui. Je veux pas surjouer la chose, mais la situation est très grave parce que j'ai un peu l'impression que le monde politique de droite ou de gauche, j'ai un peu l'impression du coup que les citoyens aussi sont indifférents à ça. Or, on n'investit pas assez dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en France, et en particulier sur les écoles de management, on est en train de désinvestir. Je parle « on », c'est la France est en train de désinvestir. Or, c'est des petits bijoux, au-delà d'HEC, c'est des petits bijoux, et on est en train donc de tuer notre compétitivité à 10 ans, 20 ans.
Concrètement, si on forme des étudiants étrangers, ben peut-être que plus tard, ces étudiants se souviendront de leur formation française.
Et... Avoir des étudiants étrangers, c'est fondamental. Ce seront les meilleurs ambassadeurs pour l'économie française.
Les contrats.
Voilà. Avoir des professeurs étrangers. Aujourd'hui, à HEC, deux tiers de nos profs sont étrangers, sont formés. Donc ça veut dire de la recherche reconnue internationalement. Donc ça veut dire de l'innovation. Et donc ça veut dire une reconnaissance mondiale. Quand HEC a 90% de ses étudiants dans le programme MBA qui sont étrangers, et 40% dans le programme Grande École, et dans quelques années, dans 2 ans, 3 ans, ce sera 50%. C'est une forme d'exportation, et c'est une forme d'exportation, en particulier une forme d'exportation sur l'influence. Et on n'en a pas conscience, on est en train de désinvestir de tout ça, et c'est grave.
Et c'est aussi un luxe quand même, hein, cette formation à HEC. Si on prend, vous parlez des MBA, mais si on prend la formation Grande École, les 3 ans, ça vaut 40 000 euros ?
Oui, à peu près. Oui,
Est-ce que ces frais de scolarité énormes déjà pour les Français peuvent encore augmenter.
Alors ça dépend du point de repère qu'on a. Vous parliez en introduction de l'international et de la concurrence internationale qu'on a. On est 2 à 3 fois moins cher que nos concurrents britanniques. Donc
certes.
Je ne vais pas chercher des exemples aux États-Unis, mais on est 2 à 3 fois moins cher que nos concurrents britanniques ou que nos concurrents collègues espagnols. Donc voilà, donc la réponse est là, c'est-à-dire qu'on a de la marge si le contexte français, politique, relayé par le monde médiatique, l'accepte. Il y a des tas de solutions pour augmenter les frais de scolarité sans que ça ne crée un handicap pour les familles qui sont moins aisées. Ben, par exemple, augmenter les prêts, faire des prêts qui soient des prêts donnés par l'État, c'est ce que font les Britanniques. On peut aller beaucoup...
Attention aux prêts étudiants, hein, quand même, vous avez vu aux États-Unis. On se demande si ça va pas être la prochaine bulle.
Oui, je crois qu'il faut faire attention. Dans le cas d'HEC, je suis pas du tout inquiet, c'est une vraie question, mais dans le cas d'HEC, quand on voit les placements de nos étudiants, et donc c'est aujourd'hui le meilleur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire un MBA à HEC, ou il faut faire la grande école d'HEC, c'est un des plus beaux investissements qu'on puisse faire. Si en plus, c'est financé au départ par l'État, alors on est aujourd'hui déjà aidé par beaucoup de banques, la BRED nous offre aux étudiants des prêts à taux zéro, donc c'est des choses extraordinaires, c'est un très bel investissement. Mais il faut vraiment le voir comme ça.
Bernard Ramanantsoa, HEC, vous parliez du budget, des difficultés budgétaires maintenant des écoles de management. Vous avez de plus en plus recours à l'argent des donateurs, des entreprises. C'est ça le gros dossier, la levée de fonds ?
Oui. Alors, il faut, en 30 secondes, la Chambre de commerce continue à investir sur HEC. Elle est sous la pression.
Qui est la propriétaire d'HEC, pardon.
Oui, jusqu'au 1er janvier, puisqu'au 1er janvier, HEC va être autonome, ne va plus être un département de la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce est sous la pression des contraintes que lui impose l'État. Donc là, c'est un vrai sujet. Et donc, sa contribution va, je ne le souhaite pas, mais va probablement diminuer. Donc, il reste pas beaucoup de solutions. Il reste les frais de scolarité, comme on l'évoquait il y a quelques minutes. Et puis, il y a le fundraising. Mais là aussi, ça prend un peu de temps. La levée de fonds. Et HEC sort, grâce à la fondation, d'une campagne où en 5 ans, on a levé 112 millions d'euros.
Sur un budget de 127 millions, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Annuel. C'est 112 millions en 5 ans.
Oui.
Donc,
annuel voilà. 127.
Donc aujourd'hui, la fondation, ça représente à peu près 8% de notre budget. Il faut arriver à monter plus haut. On a la possibilité de le faire, oui.
Bernard Amanantsou, je pense là aux universités qui sont prudentes, pour ne pas dire méfiantes, quand les donateurs sont des entreprises. Alors les entreprises chez vous, elles sont très très présentes. Hein. Elles financent des chaires, elles sont au conseil d'établissement.
Oui.
Est-ce qu'il y a une porosité, c'est ça la question, un tabou, est-ce qu'il y a une porosité entre le programme et les dons?
On va répondre à l'envers. Il ne faut pas qu'il y ait cette porosité dangereuse où ce seraient les entreprises qui diraient ce qu'il faut enseigner. Mais si on passe suffisamment de temps à expliquer aux entreprises qu'on a besoin d'elles pour comprendre l'évolution du monde économique, pour comprendre plus largement l'évolution du monde social. Mais que ça ne veut pas dire que c'est elles qui disent ce qu'on doit dire à la troisième séance du cours de marketing ou du cours de finance. Alors, ça se passe remarquablement bien. C'est là qu'il faut faire attention. Plus globalement, d'ailleurs, sur les dons des entreprises, et je remercie toutes les entreprises qui contribuent au développement
d'HEC. Vous avez quoi, tout le CAC 40 ou la moitié du CAC 40?
Non, pas assez, justement, du CAC 40. Non, on a la moitié du CAC 40, mais je veux dire, c'est pas suffisant. Je les remercie surtout pour le partenariat qu'elles nous permettent de construire et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à ce qu'elles ne nous demandent pas trop de contrepartie par rapport à ce qu'elles nous donnent. C'est un point majeur. Et d'ailleurs, les Américains, pour ça, sont très en avance. C'est une question qui ne se pose même pas. Ce serait une horreur, la question que vous m'avez posée, si j'étais américain.
Absolument, mais c'est une question de mentalité. Est-ce que les patrons français sont bien éduqués de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a encore de temps en temps quelques velléités?
Oui, il y a quelques velléités de vouloir, mais encore une fois, je pense que c'est un problème de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut expliquer, il faut passer du temps, il faut rencontrer les entreprises, il faut les laisser aussi nous expliquer leurs problèmes. Il faut qu'on leur explique que la constante de temps du monde de l'éducation n'est pas la même que la constante de temps du monde de l'entreprise, qu'ils ne peuvent pas nous demander une solution en termes de profil d'étudiants pour les 6 mois qui viennent. On ne peut pas fonctionner aussi vite.
20 ans à la tête d'HEC, est-ce que quand vous dites que les dérapages de l'économie, la crise, ça questionne la formation des élites économiques, est-ce que quand vous dites ça, vous êtes d'accord?
Non. En tous les cas, je pense que restons sur le domaine des écoles de management et plus globalement, par exemple, même des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a tenu notre place, on est reconnu mondialement. Il y a une inquiétude, évidemment, de voir les élèves qu'on a formés partir à l'étranger. Il faut pas que ce soit une inquiétude à court terme. C'est une preuve de reconnaissance si nos étudiants peuvent se placer à l'étranger. Il faut qu'en échange, comme on le disait tout à l'heure, on accepte que des étudiants étrangers viennent en France. Il y aura la question de savoir si nos étudiants qui partent à l'étranger reviendront à 30 ans. Quand ils auront 30 ans. Pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Donc, non, je suis pas inquiet par rapport à ça.
Mais sur la question de la formation des élites économiques et leur responsabilité dans la crise, par exemple.
Oui, ben posons les choses. Le verre n'est jamais complètement plein, mais il est plus qu'à moitié plein, là. C'est-à-dire que quand vous regardez les responsables économiques français, à la tête des entreprises dont on parle, mais aussi des PME, et notamment des entreprises qui sont créées récemment, vous voyez quand même qu'on a formé les écoles d'une façon générale, le système universitaire français d'une façon encore plus générale, on a formé des gens qui sont très performants économiquement. Et donc c'est un peu cruel pour eux d'en faire des boucs émissaires de quelque chose. C'est une crise de société, c'est une crise systémique, et donc dire c'est
ça
lui
n'est
le
pas
bouc
une crise,
émissaire.
Ça n'est pas une crise aussi quand même de l'éthique, que de la moralité, du sens de la responsabilité?
Oui, vous avez raison.
Est-ce que ça a été introduit dans le cursus, par exemple? Est-ce qu'il y a des cours obligatoires?
Oui, il y a des cours, notamment sur les problématiques d'éthique, mais on ne veut pas en faire des cours de morale, si je peux faire la différence. C'est-à-dire, on ne leur donne pas des recettes sur « attention, il faudrait », etc. C'est très dangereux de faire ça. Il faut simplement les sensibiliser et leur donner des grilles d'analyse d'un problème éthique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait à HEC depuis plusieurs années. Mais il faut en même temps, la responsabilité de l'individu doit rester entière. Alors ça, j'allais dire, dans la philosophie pédagogique d'HEC, c'est ça. C'est l'ancien, le diplômé, qui va avoir un comportement humaniste ou qui va avoir un comportement cynique. Mais c'est sa responsabilité.
Bernard Amanantsou, qui a aussi un DEA de philosophie, merci d'être venu sur France Inter ce matin.
Merci de votre invitation.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Et cette saison, Ma vie au boulot s'invite dans votre bureau. Vous posez vos questions à Sandrine Foulon, vos soucis, vos interrogations au travail, vos interrogations sur l'actualité sociale. Et chaque samedi, Sandrine, vous répondez à un auditeur Aujourd'hui, c'est donc Eric qui n'a pas réussi à prendre tous ses jours de vacances. Il est à Strasbourg. Eric, il se demande s'il ne va pas les perdre.
Eric a raison. Rien n'oblige un employeur à accorder un report de congé ni à indemniser des jours non pris. Tout dépend ensuite du contexte. Si c'est l'employeur qui annule les plans de vacances d'Eric, il a droit à un report. Pareil s'il tombe malade et qu'il est en arrêt pendant ses congés. Les jours non pris sont réputés perdus, sauf si le salarié peut démontrer que son entreprise ne s'est pas organisée pour qu'il puisse prendre du repos. Évidemment, il y a les situations moins claires où la charge de boulot est telle que chacun repousse de lui-même son départ en vacances. Avant de renoncer à ses congés, et non pas après, c'est là qu'il faut négocier avec son responsable. C'est à lui d'encadrer votre charge de travail, pas l'inverse. Une petite réunion avec une trace écrite, c'est bien pour trouver une solution et éviter que les jours non pris passent à la trappe. Notre auditeur doit vérifier si dans son entreprise ou dans sa convention collective, il est prévu que l'on puisse reporter ou se faire payer ces journées non prises. À défaut, le mieux est d'essayer de se mettre d'accord sur un calendrier.
Et Sandrine, est-ce qu'un employeur peut aussi supprimer les jours RTT non pris ?
En mars dernier, la Cour de cassation nous a un peu sorti du flou artistique. Soit un accord collectif prévoit l'indemnisation des jours RTT non pris et tout va bien, soit rien n'est prévu et vous pouvez les perdre. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire jugée par la Cour. Un salarié licencié juste avant son congé annuel demandait le paiement des jours RTT auxquels il aurait pu prétendre. Les magistrats ont dit « niet ». Mais, comme pour les congés payés, si un salarié démontre qu'il n'a pas pu prendre ses RTT à cause de facteurs imputables à l'employeur, il peut obtenir réparation.
Peut-on rêver qu'un jour, cette gestion des congés soit moins compliquée ?
Par un grand mystère du droit du travail, nous devons prendre nos congés payés du 1er juin au 31 mai. Pour simplifier tout ça, une proposition de loi socialiste veut caler ce compteur sur l'année civile, à l'instar de celui des RTT. Elle entend aussi autoriser les salariés à prendre leurs 2,5 jours de congés acquis par mois dès le mois qui suit leur embauche et permettre facilement le report des jours non pris. En attendant, je le conseille à Eric et à tous ceux qui jonglent avec leurs congés, prenez votre calendrier de la poste avec des teckels ou des chatons persans dessus. Notez bien vos jours pris et à prendre. C'est encore le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Pour lui poser vos questions, écrivez à l'émission sur le site franceinter.fr, l'onglet « Contactez-nous ».